Vous savez quoi, ce soir, je vais vous parler, donc ça va, 9h59, c'est 19h, je vais vous parler du cœur. On n'a pas fait exprès, hein, entre, vous allez entendre pour la troisième fois, Proverbe 4, 23, garde ton cœur au-dessus de tout, car de lui viennent les sources de la vie, hein. Et donc, voilà, et aussi Philippe a pu partager sur le cœur. Donc, Dieu insiste énormément sur le cœur. Et je crois, et le thème, c'est un cœur pleinement restauré. Et nous allons voir toute cette thématique. Et sachez que je vais amener un fondement biblique. Mais le désir, c'est que après, on ait un temps de ministère pour que nos cœurs soient pleinement restaurés. Vous savez pourquoi? Et je vous montrerai en vision ce que j'ai reçu au travers d'une diapo par rapport à ce que je crois que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Amen. Vous êtes prêts? Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Voilà, Seigneur, nous prions pour ta parole maintenant et nous ne voulons pas simplement passer une bonne soirée bénie, mais nous voulons être transformés par la puissance de ton amour. Parce que tu envoies ta parole et tu nous guéris, tu envoies ta parole et tu nous libères, parce que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors je vous ai entretenu déjà depuis deux fois sur les paraboles du royaume que vous trouvez notamment dans Matthieu chapitre 13. Et il nous est parlé, donc le premier point, c'est un rappel ça, hein. Donc Jésus leur raconta, une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise par la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager, devient un arbuste. Dans d'autres traductions, il nous est dit un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Là, le royaume de Dieu, eh bien, est libéré par la proclamation. Amen. Et au travers de cette proclamation, par son esprit, le Seigneur nous amène dans une révélation. Et donc le royaume de Dieu, et nous prions, Père, que ton règne vienne, que ton royaume soit manifesté. Et je vois de plus en plus, frères et sœurs, on en parlera de ce projet semence, de plus en plus la manifestation du royaume de Dieu. Alors c'est petit encore. Mais sachez une chose, que d'après la loi du royaume, la loi, eh bien, des semailles, des récoltes, eh bien, cette petite semence va devenir un grand arbre. Amen. Donc cette parabole du semeur, le royaume de Dieu commence par la proclamation de la révélation de la parole de Dieu. C'est la semence, eh bien, du royaume. Vous savez, on parle beaucoup d'Église, on parle très peu du royaume. 90 fois, Jésus dit dans le Nouveau Testament, eh bien, il parle 90 fois, pardon, dans le Nouveau Testament, Jésus, les apôtres du royaume, et dans les Évangiles, il parle simplement deux fois de l'Église. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et moi, je bâtis mon Église. Amen. Et donc, c'est incroyable. La manifestation et le chant, c'est mon cœur. Voyez, la manifestation du royaume de Dieu va s'étendre de l'intérieur vers l'extérieur. Donc une semence de la parole qui va peu à peu pousser et qui va prendre racine et qui va développer un caractère, des fruits, des changements d'attitude, une transformation. Donc il y a un processus de transformation et de croissance. Donc ce sont d'abord la régénération des vies. Voilà, ma vie a été régénérée par la puissance du Saint-Esprit. Il y a mon intelligence, Romains 12, qui a été transformée. Et au travers de ces semences, eh bien, notre intelligence est renouvelée par la vérité de Dieu. Parce que souvent, le diable, et on va le voir, nous bloque par trois moyens. Les blessures, les offenses. Et les mensonges. Amen. Et quand la vérité vient confronter une forteresse de mensonges, alors vous pouvez aller dans la transformation. Des caractères qui sont transformés à l'image de Christ, des familles transformées, des sphères de la société influencées et transformées. Et je peux vous assurer, Dieu est en train d'agir d'une manière puissante. Alors, un semeur sorti pour semer. Amen. Et à chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, eh bien, sachez que Dieu, eh bien, désire ensemencer vos cœurs. Amen. Et que cette semence descende dans vos cœurs. Alors, vous avez la parabole du semeur. D'abord, Jésus formule la parabole en elle-même. Et donc aussi quelque chose qui est très important, c'est que quand, si vous comprenez la première parabole concernant la parabole eh bien, des terrains ou du champ qui est le cœur avec différents types de terrains, vous pouvez rentrer dans la révélation des autres paraboles. Donc d'abord Jésus formule la parabole en elle-même, un semeur lance des graines ou des semences, elles tombent dans toutes sortes d'endroits. Au bord du chemin, les oiseaux les ont mangées, dans les endroits rocheux, il n'y avait pas beaucoup de terre, les graines ont levé rapidement avant de se dessécher, et dans les épines ont étouffé les graines, et dans la bonne terre, et ce soir on va parler de la bonne terre, les graines se sont multipliées par 100, par 60, par 30. Amen. Alors, la parabole du semeur. Donc, les graines, les semences sont la parole de Dieu, semence du royaume. Les graines mangées par les oiseaux au bord du ciel, du chemin, pardon, c'est le diable qui les a retirées du cœur de celui qui les a entendues, qui a entendu la parole de Dieu. Amen. Un semeur sorti pour semer ce soir. Quand vous allez sortir, il y a des oiseaux du ciel qui vont venir. Qui sont caractérisés par des puissances démoniaques, alors au travers comment de distractions, au travers des médias. Amen. Amen. Alors je le fais pas toujours, mais quelquefois après des où il y a des temps de louange, des temps de révélation, avant d'allumer la télé, je me mets à genoux. Et je dis, Seigneur, tout ce que tu as ensemencé dans mon cœur ce soir, pousse. Parce qu'au travers des distractions, des médias, tout cela, les oiseaux du ciel viennent enlever la semence. Les graines tombées dans les endroits rocheux, c'est l'homme d'un moment qui accueille la parole avec joie, mais qui abandonne dès qu'il se trouve confronté à des difficultés. On parle de négligence, hein, de superficialité. Les graines étouffées par les épines, eh bien on sait très bien ce que c'est. Ce sont les soucis de la vie quotidienne, et il y en a. Et l'attrait pour les richesses qui font passer l'accueil de la parole après le reste. C'est-à-dire c'est une question après de priorité, vous voyez. Donc il y a tout un travail de l'esprit. Et les graines qui se développent dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend. Donc un renouvellement de l'intelligence, il le fait. Et il fait le bien par la mise en pratique dans sa vie de la parole de Dieu. Donc il y a une mise en pratique lorsque la parole de Dieu descend. Vous voyez ? Alors, encore une fois, ça c'est un rappel hein, de ce qu'on a vu. Donc il y a Matthieu 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, 60 et un 30. Et donc, après, à la fin de Matthieu 13, au départ, eh bien, le champ, c'est notre cœur. Au départ, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est le Fils de l'homme qui sème. Mais dans la dernière parabole, eh bien, la semence, eh bien, c'est la bonne semence. Eh bien, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire, quand vous recevez la vérité à un moment donné, il y a cette libération intérieure et vous devenez semence de Dieu. Vous devenez fils du royaume et fille du royaume et vous êtes ensemencé, eh bien, dans ce monde. Amen. Et quelquefois, vous savez, lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, moi, des fois, je dis, Seigneur, je vois que l'ivraie qui pousse, les fils du malin. Mais Dieu me dit, je vais t'ouvrir les yeux afin que tu puisses commencer à voir les fils et les filles du royaume. Amen. On voit que l'ivraie, mais sachez que pendant que l'ivraie pousse, le blé pousse. Amen. Parce qu'il y a des lois et des principes spirituels. Et nous sommes dans des temps de la moisson. Amen. Et je partageais avec différentes personnes, je disais, on s'est lancé dans un projet semence. Moi, je bénis Dieu parce que personne n'y a compris quoi que ce soit. Personne s'est mis en route. Mais Dieu a continué à ensemencer les cœurs. Et je vois des personnes qui sont en train de se lever dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, avant que le projet semence devienne un projet de service, cette semence eh bien, doit transformer mon cœur. Amen. Afin que les œuvres que je libère, ces œuvres soient des œuvres de vie. Alors, un cœur honnête et bon, donc ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, voyez. Le semeur, c'est le fils de l'homme, la semence, c'est la parole, le champ, c'est mon cœur. Le cœur est quelque chose d'essentiel, de central. Donc c'est mon cœur qui va, c'est dans mon cœur que va se manifester le royaume de Dieu. Et écoutez bien ceci, on en parlait avec quelqu'un. Voyez, ma réaction à la vérité me révèle où le Père veut travailler. Oh, vous notez ça. De toute façon, vous prenez aucune note. Tant pis, je sème la parole de Dieu. Mais vous trouverez sur le site le message et vous trouverez aussi ces textes. Par exemple, lorsque je lis « Pardonnez à votre frère », si, hop, vous avez une réaction, c'est que il y a un problème d'amertume. Amen. Si, par exemple, on lit un texte qui parle justement de la langue. La langue, eh bien, il y a un pouvoir de vie ou de mort qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si vous réagissez, c'est que là, le Père veut travailler par rapport à adoucir, voyez. Donc, il y a la notion de la colère, hein, que, bon, l'orgueil, la susceptibilité, l'indiscipline, la légèreté, le manque d'amour, pensée, parole négative. Donc, ma réaction... Eh bien, à la vérité, eh bien, va m'indiquer là où le Père travaille. Le Père veut travailler, bien sûr, avec ma collaboration. Alors, notre frère Philippe en a parlé, Ézéchiel 36. Hein, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Et Jérémie 31, 33, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je les écrirai sur leur cœur, je serai leur cœur et ils seront mon Dieu. Est-ce que ces choses ont été accomplies? Oui, j'ai un cœur nouveau. Je rentre dans la nouvelle alliance. Un cœur nouveau, c'est déjà accompli. J'ai déjà un cœur nouveau. J'ai déjà un cœur de chair. J'ai déjà un cœur où l'esprit, un esprit nouveau en moi et qui, la parole de Dieu est inscrite non pas sur des tables comme Moïse, mais sur mon cœur afin que je rentre dans l'obéissance, dans une vie de disciple. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, parents, je vous invite, ou grands-parents, à semer la parole de Dieu chez vos enfants, vos petits-enfants, parce qu'à un moment donné, ça va pousser. Amen. Vous pouvez planter, vous pouvez arroser par votre amour, par votre présence, mais c'est Dieu qui fait croître. Et là, donc, il y a Nicodème, Jean chapitre 3, il faut que tu naisses de nouveau, être né de Dieu pour voir révélation, pour entrer obéissance dans le royaume. Et ça, c'est l'œuvre de régénération produite par le Saint-Esprit. Notre part, eh bien, c'est la conversion. Je me tourne vers Dieu, je me repens de mes péchés et j'accepte, eh bien, la réalité de la croix dans ma vie. Vous voyez, je suis né de nouveau. Ça, et dans nos milieux, c'est un événement, mais je crois de plus en plus que c'est un événement aussi, c'est un processus dans ma vie où je suis né de Dieu, où mes pensées ont besoin d'être nées de Dieu, où ma volonté a besoin de réellement se soumettre à la volonté de Dieu, voyez. Et souvent, on n'en reste qu'au premier point, c'est le pardon des péchés, mais il y a Romains 6, la mort à soi-même, et je suis ressuscité avec Christ. Amen. Que la nouvelle naissance, que cette semence incorruptible de la parole puisse produire, amen, ce fruit de libération, pardon des péchés, mort à moi-même et aussi résurrection avec Christ. Et notre frère nous en a parlé, non seulement il y a un cœur nouveau, un esprit nouveau, mais nous rentrons selon Jérémie 31, 33 dans la nouvelle alliance en son sang. Alors, pourquoi, vous allez me dire, mais depuis quelque temps, il y a une parole prophétique, hein, et Gabi, je dirais, répète souvent cela, Ézéchiel chapitre 36, « J'ôterai votre cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair », alors que nous avons déjà un cœur nouveau, un esprit nouveau. Vous comprenez ? Je dis, mais pourquoi tu insistes et nous accueillons la parole prophétique et vous allez voir pourquoi. Donc un cœur de pierre, c'est un cœur qui est rebelle, qui est désobéissant, voyez. Un cœur de chair, c'est un cœur qui bat selon le timing, hein, le cœur de Dieu. Alors comme disaient Antoine et Philippe, donc la notion du cœur est centrale. Il y a plus de 1000 références sur le cœur dans la Bible. Allez, on le répète, 4:23. Amen. Garde ton cœur au-dessus de tout, car de lui viennent les sources de la vie. Luc 6:45. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh ! Vous savez, moi, j'ai une habitude. Quand je fais des entretiens ou quand je suis dans des pastorales, je dis, frère, est-ce que tu peux prier ? Et selon ce que la personne prie, j'ai une indication de l'état de son cœur. Amen. Quand vous entendez les gens parler, vous allez dire, ben, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il y a une indication de ce qu'il y a de l'abondance du cœur. Amen. 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 Ok. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail. Voilà. Matthieu 15:19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc c'est Jésus qui identifie la racine, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et vous connaissez, hein, psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Proverbe 23:26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et on terminera par ce verset sur mon fils, ma fille. Pourquoi ? C'est que nous avons un ennemi qui s'appelle le diable, le destructeur. Et Jésus, et souvent nous disons la deuxième partie de Jean chapitre 10, B, je dirais, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Est-ce que vous voulez l'abondance de Dieu ? Amen. L'abondance, je parle de la vie de Dieu. L'abondance de la présence de Dieu. Amen. De la sagesse d'en haut, du discernement, des dons spirituels, voyez. Mais avant, il y a le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire, nous sommes dans une guerre spirituelle et l'enjeu, c'est notre cœur. Est-ce que vous vivez ça ? Hein ? Chaque jour, eh bien, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et donc, que l'esprit nous invite à avoir des choix de vie, voyez. Et donc, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Donc, il y a une responsabilité personnelle, c'est de cultiver notre terrain, notre champ, et de le garder. Ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est ta responsabilité. Amen. Je garde. Et nos yeux et nos oreilles sont les portes de l'âme. Donc au travers de nos yeux, au travers de nos oreilles, donc attention à ce que nous voyons, attention à ce que nous écoutons, ces choses-là sont des moyens pour ensemencer votre cœur. Amen. C'est pour ça que David, dans le psaume 119, je ne vais pas le lire parce qu'il est trop long, hein, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Comment le jeune homme gardera-t-il son sentier, sa vie ? Eh bien, en serrant ta parole, sa parole, ta parole sur son cœur. Voyez ? Donc, on est dans une guerre spirituelle. Donc, il faut être conscient de cela. Et le diable, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut dérober les oiseaux du ciel. Il veut égorger, c'est-à-dire il y a une œuvre de destruction, il y a une œuvre, je dirais, de haine, parce que le diable nous hait. Amen. Et donc, il y a cette guerre spirituelle. Et au travers de la négligence, de la superficialité, des soucis, des séductions, des richesses, c'est ce que nous voyons dans Matthieu 13, eh bien, l'ennemi vient, je dirais, envahir notre cœur, et notre responsabilité, c'est de le cultiver, le garder. Hein. Voyez, notre responsabilité est de veiller sur les semences qui entrent dans notre cœur. Voilà. Et quand il y a cette parole, je désire Et on va voir 4-5 maladies de cœur ce soir. Amen. Amen. Et vous allez vous identifier. Et ainsi, ensuite, il y aura un appel, il y aura, je dirais, un temps de ministère. Et c'est-à-dire que, alors que nous avons un cœur nouveau, un esprit nouveau, alors que, eh bien, Dieu a mis dans nos cœurs ses lois, eh bien, à cause de cette peut-être mauvaise incompréhension de Romains 6, nous sommes morts avec Christ, alors nos péchés sont pardonnés, mais nous faisons notre volonté. Amen. Nous pensons ce que nous voulons, voyez. Et là, notre cœur, eh bien, devient de plus en plus rebelle. Amen. Amen. Et devient de plus en plus insensible. La première, c'est dans 1 Jean, vous lisez ça. Le premier signe qu'un cœur est en crainte de s'endurcir, c'est quelqu'un qui abandonne les frères, qui abandonne l'amour des frères, l'amour de la communauté. C'est un des premiers signes, voyez. Et de plus en plus, il s'enfonce dans les ténèbres. Alors, on peut avoir et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu nous dit, eh bien, je veux travailler vos cœurs, je veux vous donner tout à nouveau un cœur, et on verra la vision que j'ai eue, un cœur, eh bien, un cœur nouveau, un cœur qui est restauré, non seulement racheté, mais restauré. Et donc là, il y a un cœur vide. Ce cœur est perdu et rend confus, éloigné, voyez. Je pense que c'est pour des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, qui se sont de plus en plus éloignés, voyez, ils suivaient Jésus de loin. Et quand tu suis Jésus de loin, à un moment donné, tu le perds de vue. Blaise Pascal disait, philosophe français du XVIIe, il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur et chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu. Vous voyez, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Donc, il y a un vide en forme de Dieu. Vous voyez. Alors, comment le soigner? Alors, je réfléchis là où j'en suis. Je réfléchis au sens de ma vie. Je me tourne vers Dieu dans la prière, la repentance et l'obéissance. Vous voyez, c'est là, c'est ce chemin du fils prodigue qui est entré en lui-même, qui a réfléchi la réalité où il était, la maison du Père, où il y avait toute cette abondance. Donc, il entre en lui-même, il réalise qu'il est vide. Alors, on peut par toutes sortes de matérialisme, distraction, tout cela, eh bien, remplir ce cœur, mais il n'y a que Dieu qui peut réellement nous amener dans une pleine liberté, voyez. Amen. Amen. Je viens ou je reviens dans la maison du Père comme le fils prodigue. Et donc, ce soir, si vous identifiez à ce cœur vide, eh bien, je vous invite à vous arrêter à réfléchir un peu au sens de votre vie en disant, Seigneur, ce soir, je veux rentrer dans la maison du Père. Il entra en lui-même et il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'irai vers mon Père en disant, j'ai péché contre toi. Et il s'est mis en route. Et je vous invite à réellement vous mettre en route et nous sommes là aussi pour pouvoir vous aider. Le deuxième cœur, alors il y a plusieurs, mais ce que j'ai retenu, c'est un cœur amer. Hébreux 12, 15, voyez, que toute racine d'amertume soit ôtée de vous afin qu'elle ne produise pas des rejetons. Alors souvent, d'une manière spirituelle, on dit « je ne suis pas amer », voyez, je n'ai pas d'amertume et j'ai du ressentiment. Ça, c'est très spirituel, mais ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que tu en veux à quelqu'un. Et donc, est-ce que la vérité a touché un terrain là où le Père veut travailler? Moi, c'est terrible. Je me suis rendu compte que les chrétiens ont de plus en plus, la difficulté, c'est libérer le pardon. C'est incroyable. Et quand vous êtes, rempli de la grâce de Dieu, compris la grâce de Dieu, alors vous pouvez pardonner à celui qui vous a blessé. Alors un cœur envahi par les herbes amères, voyez, par les ressentiments, Ce cœur voit les choses négatives et se plaint. Un cœur qui a du mal à voir les personnes sur leur côté positif. Vous voyez, il y a souvent, vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il y a critique, défaitisme, mordant, médisant. Vous voyez. Et donc, causé par un refus de pardonner, des blessures niées, des ruptures sans démarche de véritable de réconciliation ou de lumière. Alors souvent vous dites, le temps va effacer. Moi je peux vous dire que le temps risque même de compliquer les choses. Parce que vous allez transmettre vos ressentiments à ceux et celles qui sont autour de vous. Comment vérifier un cœur amer? C'est très simple, écoutez ce que la personne dit. Alors comment soigner? Je pardonne, j'abandonne la situation à Dieu, je demande pardon à Dieu pour mes réactions. Moi je vais me venger, ça c'est naturel, hein? Amen. Moi j'ai vécu ça dans plein de situations. Et comment Dieu m'a coincé? C'est très simple. Alors que je disais, je voulais me venger, alors on ne se venge pas, on se justifie. Au lieu de demander pardon, on se justifie. Et vous savez ce que la personne dit? Ce que Dieu m'a coincé, c'est que la personne qui m'a offensé est bénie. Je dis, mais Seigneur, tu t'es trompé là-dedans, il y a eu un problème là. Elle m'a offensé et c'est elle qui est bénie. Et c'est là que tu dis, oula Seigneur, là il y a un truc. Pourquoi? Parce que Dieu te pousse à la repentance pour que tu puisses, je dirais, bénir et pardonner. Alors je pardonne. J'abandonne, je demande pardon à Dieu pour mes réactions, mes paroles et pensées négatives. Vous voyez, ça devient des fois dans des situations, ça devient obsessionnel. J'abandonne, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. J'agis en allant voir la personne. Je sors d'une situation qui contrôle mes émotions et mes pensées. Donc je suis en prison, vous voyez, au travers du non-pardon. Alors, il y a un autre cœur, type de cœur, c'est le cœur orgueilleux. Alors, on ne va pas lire, mais dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14, il nous est parlé du pharisien et du publicain. Vous voyez, moi, Seigneur, et il y avait comme un mépris. Voilà, moi, je suis juste. Et le cœur est caractérisé par l'orgueil, la propre justice, le jugement, le mépris, la dureté, la susceptibilité. Vous voyez, la personne se sent au-dessus des autres à cause de sa position sociale, son titre ou sa connaissance. Vous voyez, c'est ce que et sachez une chose, c'est que tous nous avons un pharisien qui dort en nous. Amen. Amen. Oh. Moi, je fais très attention. Vous savez à ça. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'est-à-dire que quand souvent vous avez du succès, vous prenez très vite le melon. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit non, non, c'est pas moi qui fais les œuvres, c'est celui qui m'a envoyé. Donc il renvoyait la gloire à son Père. Amen. Alors, l'histoire de la paille, de la poutre, hein, vous connaissez cela. Au lieu d'enlever la paille de l'œil de ton voisin, regarde si tu as une poutre. Saint-Esprit, est-ce que j'ai une poutre dans mon œil? Demandez au Saint-Esprit. Ou demandez à votre femme. Jacques 4, 6 et 7. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, je demande au Saint-Esprit qui me montre toutes les formes d'orgueil. Vous voyez, par rapport au mobile, par rapport aux motivations. Vous savez, il y a dans Paul qui écrit, qui dit, il y a des gens qui prêchent par esprit de dispute, par esprit d'orgueil ou quoi que ce soit. Mais bon, l'évangile est prêché, il y a des gens qui se convertissent, mais les motivations ne sont pas pures. Donc je me repens de toute motivation, toute attitude, de toute pensée, de parole orgueilleuse. Je cherche l'humilité et je donne toute la gloire à Dieu. Alors ça, je pense que c'est pour la majorité d'entre nous. C'est un cœur résigné. Et dans Proverbes 13, verset 12, il nous est dit ceci, « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir qui aboutit est un arbre de vie. » Tout à l'heure, on parlera de ça. C'est-à-dire, il y a une attente, vous voyez. Moi, je me souviens, il y a eu un... Vous voyez, quand la vague du vin nouveau est venue, fou, on croyait que le réveil était là. D'ailleurs, il y a eu une vague de réveil, de visitation. C'était incroyable. Mais quand la vague s'est retirée, c'est là que mon espoir différé a rendu beaucoup les cœurs, le cœur. Et après, on dit, waouh, ce n'était pas de Dieu, quoi que ce soit. Moi, je peux vous assurer, c'était absolument de Dieu. On a très mal géré et je me repens pour cela. Mes frères, parce qu'il y avait un manque de maturité, en tout cas, me concernant. Et sachez que si, et ça, c'est pas si, il y aura un temps de réveil. Je le vois déjà. Amen. On va se recentrer sur Christ, sur la parole de Dieu. On va arrêter d'avoir des frissons charismatiques ou des expériences, de vivre d'expérience en expérience, mais on veut vivre d'obéissance en obéissance. Amen. Et porter du fruit. Et que notre caractère, il y ait une transformation. Amen. Alors ce cœur est lassé, déçu, épuisé, donc ça peut être des attentes non différées, des attentes déçues, la guérison d'un proche, tout cela. Ce cœur est lassé, déçu, épuisé, désabusé, désillusionné, triste. Cette situation est causée par les épreuves, les déceptions, les prières non exaucées, les promesses non réalisées, les attentes déçues, les prophéties non accomplies. Vous voyez, il y a une attente, il y a une aspiration et ça ne va pas plus loin. Alors, en rigolant, c'est le cœur des anciens combattants, des vétérans, ça. Vous voyez ? Ce cœur devient incrédule en croyant avoir déjà tout connu et vécu. Amen. Est-ce qu'il y a des vétérans là ? Amen. Alors que Dieu ce soir veut nous rafraîchir, une restauration du cœur, en disant « Seigneur, je ne veux pas être résigné, mais je veux rentrer dans cette vie. » Et quand, si vous connaissez l'histoire de l'Église, c'est toujours là. Vous voyez, quand une vague de révélation, des choses anciennes sont là, c'est toujours le mouvement précédent qui persécute le nouveau mouvement. Comment soigner ? Je me souviens des bons souvenirs. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut se souvenir des bons souvenirs ? Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi, quand je pense à mes yeux, moi, je pense aux fêtes de l'Évangile, les chapiteaux, tout ce qu'on a vécu, aux jeunes qui allaient dans les nations, à l'école chrétienne, à l'école biblique. Vous voyez, on retient les bons souvenirs. Si votre cœur a été restauré. Les actions de Dieu, les histoires des interventions doivent être célébrées. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Je me rappelle de tout le chemin parcouru. Je soigne mon passé au fur et à mesure. Amen. N'attendez pas 25 ans avant de traiter votre passé. Essayez de traiter votre passé au fur et à mesure. Amen. Oh, moi, je connais des serviteurs de Dieu qui, tous les ans, prennent une semaine en jeûne et prière, ils sont même entourés d'équipes, et disent « Seigneur, tu vois tout ce que j'ai vécu, que ce soit en mission ou quoi que ce soit, eh bien, je prie que tu puisses réellement me laver, parce qu'il y a des il y a aussi toute la notion de guerre spirituelle, vous voyez ? Donc, il est très important, vous savez, il y a des lois de la guerre. Lorsque, eh bien, Israël eh bien, combattait, il y avait ensuite toute une cérémonie pour laver les épées. Amen. Très intéressant cette notion. Voilà, un bilan annuel et saisonnier aide aussi à soigner les plaies du passé. Voyez. Alors, ça c'est peut-être le point central, c'est les cœurs brisés. Est-ce qu'il y a des cœurs brisés au milieu de nous ? Personne, moi je peux vous dire qu'il y en a trois quarts. Les cœurs brisés par les souffrances, par les blessures, les traumatismes du passé, deuil, divorce, échec, accident, abus. Voyez, et donc, et Dieu a réellement insisté là-dessus, parce que Dieu veut restaurer nos cœurs. Pourquoi ? Parce que nos cœurs puissent être pleinement restaurés, guéris, relevés, pour qu'on puisse se tourner vers ceux et celles qui connaissent, voyez, les souffrances, les blessures, les traumatismes. Et il y en a. Ésaïe 57, 10, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le Dieu, le nom est saint, je demeure dans les lieux élevés, dans la sainteté, voyez, mais aussi avec celui qui est opprimé. Amen. Et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Amen. Amen, frères et sœurs. Alors quand nous chantons Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, mais Dieu voit aussi celui qui pleure. Amen. Vous savez, les larmes de vos cœurs. Dans Apocalypse, il nous est dit que Dieu va essuyer toutes les larmes de tous les visages. Amen. Il y a cette consolation. Alors, il y a un cœur brisé qui est là, des blessures. Et tout à l'heure, je vous dirai un peu ce que, dans un temps d'intercession pour chacun d'entre vous, pour les familles. Je me souviens de l'homme de douleur décrit dans Ésaïe 53. Je lui remets mes souffrances. Vous voyez, Jésus est l'homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté, méprisé. Vous voyez, et lorsqu'il y a ces souffrances, ces traumatismes en vous, et comme l'a dit Philippe, vous voyez, vous approchez du cœur de Jésus, il y a le sang et l'eau qui coulent. Vous voyez, donc je m'identifie, et la Bible nous dit ceci, souvent on parle, Jésus a porté mes péchés, oui, à la croix, mais il a porté mes souffrances, il a porté mes malédictions, voyez. Donc il y a tout un, ce qu'on appelle un échange, un transfert, voyez. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Ça c'est Brahma un jour qui a dit ça. Seigneur, je ne comprends pas par où je passe, mais je te fais confiance. Même dans les larmes. Je laisse le Père me guérir. Et c'est l'amour du Père qui va nous guérir. Amen. Est-ce que vous voulez être dans cette ouverture? Amen. Je suis en train de lire un livre qui me bouleverse actuellement. Je suis en train de travailler là-dessus. C'est une femme qui, pendant 2 ans, a eu des gros problèmes de santé. Elle allait mourir, tout cela, alors que c'était une servante de l'Éternel. Elle avait fait l'école Réma concernant la parole de la foi. Prononce des paroles, proclame les paroles. Rien ne se passait. Et à un moment donné, elle a eu réellement des visions, ce qu'on appelle des visions célestes. Le livre s'appelle « Visions célestes ». Et donc, elle a vu le Père qui venait la prendre, c'est une sœur, la prendre sur ses genoux et commencer à expliquer, par exemple, par où Job est passé. Le criblage des saints. Satan a te réclamé pour te cribler. Et il y a des gens ici, je ne donnerai pas de nom, mais qui ont été criblés par l'ennemi. Et souvent, le criblage est dû à une pensée de Dieu, à une mission spécifique, voyez. Souvent, nous voyons les hommes de Dieu, gloire à Dieu, mais vous ne voyez pas derrière comment il y en a qui ont perdu des enfants, une épouse, qui ont perdu, je dirais, la santé, tout cela. Il y a la notion du criblage. Et là, cette sœur a eu une image des deux flacons. Ça m'a beaucoup parlé. Un petit flacon, voyez, et le Père lui dit, dans ce flacon, petit flacon, c'était tes larmes. J'ai recueilli tes larmes quand tu étais criblé. J'ai recueilli tes larmes lorsque ton cœur était brisé. Et après, le Père a pris un grand flacon et il a dit, pendant que tu pleurais, moi aussi, je pleurais. Et elle a compris une chose, c'est que malgré à un moment donné, et quelque chose qui est très important que nous vivons tous, c'est le sentiment d'abandon. Vous n'êtes jamais senti abandonné? Ça fait partie de l'équipement, la formation. Le Père dit, je ne t'abandonnerai jamais. Mais Père, lorsque j'ai perdu un enfant, lorsque j'étais dans le deuil, tout cela, mais tu étais où? Vous n'êtes jamais posé la question quand vous passiez des moments de deuil, de divorce, tout cela. Tu étais où? C'est quelqu'un qui s'est, je ne sais plus, une auteure qui était dans les camps de la Shoah. Il disait, mais votre Dieu, il est où? Mais regardez! Il y avait, je crois que c'est Corrie ten Boom qui dit ceci. Dieu était en Christ réconciliant. Le Christ était sur la croix, portant les péchés de toute l'humanité, la rébellion de toute l'humanité. Les deux flacons, amen. Donc, réalise cela ce soir. Quand tu pleures, tu remplis ton flacon et sache que le Père a un autre flacon et il pleure avec toi. Amen. Une deuxième image concernant les traumatismes, c'est un cœur qui a, je sais pas, un cœur qui, il y a eu une grosse explosion des épreuves, des traumatismes dans votre vie. Et il y a comme une vitre qui a claqué et les éléments, les éclats de verre sont rentrés dans votre cœur. Amen. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. C'est ce qu'on appelle la guérison des traumatismes. C'est-à-dire que votre cœur peut être restauré, peut, être aimé de tout votre cœur, mais seul l'amour du Père va enlever les éclats de ces vers dans votre cœur. Amen. Vous voulez pas que le Père, l'amour du Père. Père, tu vois ces choses. Voyez, parce que je crois qu'il ne faut pas passer vite. Vous savez, nous, on est charismatiques, on croit que les choses vont se résoudre sur une imposition des mains, sur une prophétie, quoi que ce soit. C'est un cheminement avec le Père. C'est une identification avec l'homme de douleur, Jésus. C'est une communion avec le Saint-Esprit qui nous conduit dans des moments de guérison, de délivrance. Amen. Donc, Dieu veut enlever les éclats de verre de ton cœur. Alors, c'est ce que nous vivons actuellement, en tout cas, c'est ce que je discerne, parce que Dieu veut que nous puissions avoir un cœur restauré, voyez. Et au travers, moi je crois qu'il y a une action spirituelle au travers de la parole, au travers de la prière, mais je crois que l'unité va être source de guérison. Amen. Et le psaume 133, voyez, on a chanté tout à l'heure, « Voici, bénissez l'Éternel », c'est le psaume 134. C'est ce qu'on appelle le cantique des degrés, le cantique des montées, du psaume 120 à 134. Il y a 15 psaumes, et au psaume 133, alors que le premier psaume 120 dit, eh bien, « Car c'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié, et il m'a répondu ». Et il termine dans la maison de Dieu, le psaume 134. Eh bien, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel toutes les nuits. Et le psaume 133, je crois que, et je le vis à différentes échelles, dans les différentes équipes, vous voyez, il y a, lorsque nous venons ensemble, avec un cœur, en disant, Seigneur, je suis là avec mes frères et sœurs, je veux que tu sois le centre pour très important, je ne sais pas si vous réalisez cela, de moins en moins nous prions pour nous-mêmes. Ça, c'est une action de l'esprit. Je commence à dire, Dieu est grand. Et mardi, on a vécu quelque chose de très très fort. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Et je me souviens le message de Sam Matthews qui dit, mais attendez, les nations s'agitent, le psaume 2, tout ça. Mais qui va dire que Dieu est grand? Si ce n'est l'Ecclésia, l'Église. Amen. Les fils et les filles du royaume. Et là, il y a une action de l'esprit qui fait les gens. Et alors que souvent, pour me rester concentré, je ferme les yeux, j'entendais des frères qui allaient voir quelqu'un, qui priaient les uns pour les autres. Les dons spirituels sont libérés. Vous voyez, des pensées prophétiques qui sont là, des images. Il y a d'autres qui reçoivent la parole. Et à un moment donné, il y a eu un cri. L'amour du Père avait touché les profondeurs d'une sœur. Elle s'est mise à hurler. Frères et sœurs, c'est en ce type de la présence de Dieu que l'Esprit de Dieu va agir. Amen. Pour guérir. Amen. On s'approche de lui. C'est lui qui va nous guérir. C'est le Père des Lumières qui va nous guérir. Amen. Alors, vous connaissez ça. Voilà. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer unis ensemble. Dans d'autres traductions, il nous est dit de joindre leur vie ensemble, d'habiter ensemble. Il y a différentes traductions, vous voyez. Et une unité produite par le Saint-Esprit, notre union avec Christ libère cette unité entre nous. Nous sommes unis. Notre union avec Christ nous amène dans cette unité en Christ. Souvent, nous cherchons notre unité en Christ alors que nous ne sommes pas unis, notre union avec Christ. Donc, il y a une union. Comme le Père et moi, nous sommes un. Ensuite, Père, qu'il soit un. Voyez. Alors, frères et sœurs, je prie. Et alors que nous allons préparer deux chants, voyez, qu'il n'y ait pas de retenue, qu'il n'y ait pas de réserve, qu'il n'y ait pas de retrait, qu'il n'y ait pas de résistance. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde qui attend. Amen. Et là, vous avez des cœurs brisés. Mais ils n'ont aucune solution. Nous, on sait que c'est l'amour du Père. C'est Jésus qui a porté nos souffrances, voyez. Et là, nous voyons eh bien, qu'il y a une action de l'Esprit. C'est-à-dire, lorsqu'on est unis ensemble, c'est une unité spirituelle. Ce n'est pas une unité institutionnelle. Amen. Oh là là. Ça, je l'ai dit à l'archevêque de Lyon. C'est une unité spirituelle. et pas une unité institutionnelle. J'ai balancé une grenade. C'est l'huile la meilleure qui est répandue. Donc, il y a une huile de guérison, une huile parfumée dans d'autres traductions qui descend sur la barbe d'Aaron. Il y a une guérison intérieure lorsque des frères et sœurs sont ensemble. Amen. Il y a un amour qui se dégage. Il y a une volonté d'aller, de prier les uns pour les autres, de porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes. Et ensuite, la notion de la rosée, c'est la notion du rafraîchissement. Amen. Nous sommes rafraîchis par la présence de Dieu. Amen. Non seulement guéris, mais c'est le corps qui descend, l'huile et la rosée qui descendent ces montagnes, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Nous voulons la vie, la bénédiction au milieu de nous, la présence de Dieu. Amen. La plénitude de la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. La mentalité à l'Élion, j'ai plus le temps, mais c'est les uns et les autres. S'aimer, s'accueillir, se saluer, prendre soin, se pardonner, ne pas juger, tout cela. Et le projet semence là-bas, c'est aime ton prochain. Et je termine par cette vision que j'ai eue, alors que je priais pour ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et cette pensée, celle-ci, c'est que Dieu veut restaurer notre cœur, mon cœur. Laissez le Saint-Esprit. Saint-Esprit passe un IRM sur mon cœur. Vide, amer, brisé, résigné, tout cela. Et une fois qu'il y a ce cœur, l'arbre de vie peut pousser. Amen. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Amen. Et ça, c'est vrai au niveau collectif. C'est-à-dire que si mon cœur est guéri, je suis en relation avec, dans le cœur du Père, dans le cœur de Jésus, dans la communion du Saint-Esprit, d'ici, de ce lieu. Il y a un jour, en priant ici, j'ai vu un arbre de vie, là, au milieu, qui sortait comme ça. Amen. Ça vient de quoi? Ça vient des cœurs restaurés, pleinement restaurés. Alors, on va chanter ce chant, et ensuite on va prier pour avoir un temps de ministère. On va chanter ce chant, merci, c'est Philippe. On va chanter peut-être ce chant « À toi nos cœurs, nos vies ». Est-ce qu'on peut, on peut se lever, voilà. Amen. Vous retrouverez cela sur le site avec le PowerPoint. Voilà, chantons de tout notre cœur. « À toi nos cœurs, nos vies ». Apportons nos cœurs brisés, résignés, amers, vides. Merci Saint-Esprit pour ton action. Priez, priez. Alléluia, apportez vos cœurs. Alléluia.
À toi nos cœurs.
À toi mon cœur, ma vie. Sortir de ce lieu, mais je veux que mon cœur, Dieu touche mon cœur. Alléluia. Et alors que j'étais dans un temps d'intercession pour l'Église, pour vous, C'est pour ça qu'on va chanter un dernier chant qui s'appelle « J'attirerai le cœur des pères vers les fils ». Le cœur des fils vers les pères. Et ce chant, on pense tout de suite, bien sûr, à Malachie, l'esprit d'Élie. Mais le Seigneur me dit, non, je veux attirer le cœur de mes fils vers mon cœur de père. Amen. Je veux que mon cœur de père touche les cœurs des fils. Est-ce que vous comprenez? C'est une communion entre Dieu et vous. Hein. Et donc, c'est pour ça, on va chanter, on va mettre... Mais avant, donc dans l'intercession, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Laisse-toi attirer dans ta présence. Car Jésus guérit, restaure, libère par son amour. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu pour ensuite répandre cet amour tout autour de nous. Et j'ai été saisi par l'Esprit. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai vu différentes situations de l'église du tabernacle depuis des années. Il y a ceux qui sont passés par le deuil. Je ne vais pas vous lever la main. Le deuil. Et à un moment donné, alors que le Seigneur me montrait qui dans l'église est passé par le deuil depuis des années, hein, pas simplement 1, 2, 3 ans, il y a un cri intérieur qui est venu. Abba, Père ! Père. Libère du deuil. Ensuite, le Seigneur m'a montré toutes les notions de divorce, de rupture de relation. Et alors que je priais pour certaines personnes, situations, un cri intérieur, « Abba, Père !» Tous ceux qui ont été traumatisés par des divorces, « Abba, Père !» Ensuite, il y a eu des couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants. J'ai prié, je dis Seigneur, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, qui est une semence de fils et de filles spirituelles. Des personnes seules qui souffrent du célibat, qui ne sont pas mariées, qui voudraient se marier, tout cela, des personnes seules, des personnes aînées, tout cela, qui sont vendredi, j'ai visité notre petite sœur Denise Ussel, je dis Seigneur, Abba Père. Et alors qu'elle me parlait, elle ne savait même plus que son mari était mort. Abba Père, aie compassion de nos personnes aînées, de nos personnes seules, de nos personnes, de ces mamans, et bien seules, célibataires, tout cela. Aie compassion, Abba Père. Il y a eu aussi tous ceux et celles qui veulent servir Dieu, mais qui sont empêchés par des situations, qui sont bloqués. Abba Père, pour des personnes aussi malades qui luttent contre l'infirmité, Abba Père. Ne soyons pas des consolateurs de Job, qui a dit si tu es malade, c'est parce que tu n'as pas assez prié, parce que tu n'as pas assez de foi. Mais sachez qu'il y a la notion, et un jour peut-être on parlera de ça, du criblage. Criblé par l'ennemi. Mais vous savez, qui a relevé Job? C'est la main de l'Éternel. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. La révélation vient, la profondeur vient. Alors on va chanter ce dernier chant, j'attirerai, et je vous en supplie, frères et sœurs, laissez l'Esprit de Dieu vous amener vers le cœur du Père. Et dire Seigneur, merci pour l'œuvre de guérison. Seigneur, je prie maintenant, alors que nous chantons ce chant, Seigneur, que tu libères maintenant ton esprit de guérison. Au nom de... Priez avec moi, c'est pour chacun d'entre nous. J'attirerai. Et laissez l'esprit. Si vous voulez vous approcher, approchez-vous. Alléluia. Et je crois que dans la présence de Dieu, dans cette unité de l'esprit, le Seigneur va aussi vous amener à prier les uns pour les autres. On va voir comment Dieu agit.